I will speak French, but I'd like to say one sentence in English to go on establishing a link. While the first part of this session five was about all the great things that science can do for us, I'm going to develop a less triumphant, more modest view of science. I will remind us that the people who do the science, the researchers, are fragile, vulnerable, and apt to err. I switch to French. Je vais parler de l'éthique de la recherche scientifique en 7 points. 1. La distinction entre savoir et croire nous vient de la philosophie grecque. Platon oppose doxa, opinion, croyance, et épistémé, savoir, connaissance, une opposition reprise par le philosophe allemand Kant. Ce qu'on sait, c'est ce qui a été établi et validé par des voies que chacun peut contrôler. Par exemple, on sait que la Terre est ronde, et si vous prenez l'avion, vous pouvez contrôler qu'on fait le tour de la Terre. Ce qu'on croit est une opinion à laquelle on tient, à laquelle on accorde de la valeur et qui n'est pas réfutable scientifiquement. Par exemple, certains croient que Dieu existe, d'autres ne le croient pas. Aucune de ces croyances n'est scientifiquement réfutable. Cette distinction entre savoir et croire a une grande importance culturelle. Dans un pays démocratique, je dois respecter les croyances des autres, même si je ne les partage pas. Je dois respecter vos opinions religieuses, politiques, vos préférences sexuelles, etc. Au contraire, dans la sphère scientifique, une fois établi que la Terre est ronde, si vous me dites que la Terre est plate, je peux vous répondre que vous vous trompez. Vous êtes dans l'erreur. 2. Le scientifique cherche la vérité. Il veut savoir comment le monde est réellement. Les scientifiques font des hypothèses. Ils soumettent ces hypothèses à l'épreuve de l'expérience. Et à mesure que le travail scientifique avance, ces hypothèses sont corroborées ou discréditées. Ainsi, la recherche scientifique opère un tri entre les bonnes hypothèses qui survivent à l'épreuve des faits et les mauvaises hypothèses qui ne correspondent pas à la réalité et qui sont rejetées. C'est ainsi que la science avance dans la connaissance. 3. Le choix de chercher le vrai est un choix éthique. L'éthique du chercheur, que Jacques Monod appelait « éthique de la connaissance », implique que le chercheur honnête a certainement des idées, de grandes idées, mais qu'il accepte de tester ses idées, de les faire contrôler par les faits, de les soumettre à la critique de ses compagnons chercheurs, et si les faits sont en désaccord avec son idée, il renonce à son idée, il se rend à l'évidence des faits. Cette humilité devant les faits, c'est l'honneur de la science. La communauté scientifique prend de grandes précautions pour éviter que des idées insuffisamment validées soient acceptées comme vraies. Les travaux scientifiques, aujourd'hui, pour être pris au sérieux, doivent être publiés dans des revues à comité de lecture, ils doivent être assez explicites pour que tout autre chercheur puisse reproduire la démonstration, l'enquête ou l'expérience. Et un résultat n'est habituellement jugé crédible que s'il a été reproduit par une autre équipe indépendante de la première. 4. La fraude scientifique a toujours existé. On dit que Ptolémée n'a pas inventé son système du monde en regardant les étoiles, mais qu'il l'a copié dans une bibliothèque. Illustre plagiat. Pourtant, il semble que depuis un demi-siècle, les fraudes scientifiques ont augmenté. Peut-être simplement à cause de l'augmentation du nombre de chercheurs, depuis que la recherche scientifique est reconnue comme un facteur crucial du développement des pays. Tout le monde veut avoir de la recherche. La fraude scientifique est devenue aujourd'hui un souci mondial, global, au point de susciter deux grandes conférences internationales, la première en 2007 et la seconde l'été dernier, en 2010, à Singapour, où 50 pays étaient représentés. Cette conférence a produit un guide des pratiques responsables de recherche qui est diffusé sous le titre « Singapore Statement on Research Integrity ». Vous pouvez l'obtenir facilement sur Internet en tapant « Singapore Research ». Singapore Statement, pardon. De quelle fraude parle-t-on? On distingue trois degrés dans la fraude. Les grandes, les moyennes et les petites. Regardons d'abord les fautes graves, les péchés mortels, car si on les détecte, elles vous coûtent votre carrière. Les fautes graves, c'est facile à retenir. En anglais, FFP, fabrication, falsification, plagiat. Un exemple de plagiat d'abord. La thèse de doctorat entièrement copiée sur des travaux antérieurement publiés. Ça existe. Ça ne mérite pas le doctorat. Un exemple de fabrication. Ce Coréen qui, il y a 5 ans à peu près, prétendait avoir construit des embryons humains par la méthode du transfert de noyaux. Je n'entre pas dans la technique. Il a publié 2 grands articles retentissants dans le journal Science et quelques mois après, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas du tout construit ses embryons, qu'il avait truqué les photos, que tout était faux dans ces articles. Fabrication des données. Passons maintenant aux fraudes moyennes, qu'on appelle des inconduites, misbehavior en anglais. Ça consiste par exemple à interpréter les données de façon tendancieuse. Ainsi, la toxicité de la fumée du tabac a été longtemps niée contre toute évidence, par des experts statisticiens, fumeurs, ou rétribués par l'industrie du tabac, ou les deux. On voit aujourd'hui des phénomènes semblables autour du réchauffement climatique. Petite fraude, maintenant, qu'on appelle des négligences. Une petite fraude, par exemple, sera de mettre son nom dans la liste des auteurs d'un travail scientifique auquel on n'a pas du tout collaboré. Le signataire fantôme. C'est très fréquent. Tu signes mon article, je te signe le sien, ça nous fait un article de plus dans notre liste de publications. 5. Où est le problème ? Eh bien, le problème n'est pas un problème d'éthique. Tout le monde reconnaît que ces fraudes scientifiques, c'est mal. On ne doit pas le faire, et si on le fait, on mérite d'être puni, c'est-à-dire exclu de la communauté des chercheurs. Ainsi, le Coréen dont je parlais, M. Hwang, a été chassé de son université lorsqu'il s'est révélé qu'il avait inventé ces données, falsifié. Et ces 2 articles frauduleux ont été rétractés dans le journal où ils avaient été publiés, avec en rouge « retracted », la honte. Le problème pour la communauté scientifique, ce n'est pas de dire que c'est mal, elle le fait. C'est de détecter la fraude, car la fraude réussie est une fraude non détectée. Et pour cette raison, il est très difficile de connaître la fréquence de la fraude. Certes, il existe des logiciels de détection du plagiat. Je connais des universités qui mettent à la disposition des doctorants des logiciels permettant à ces doctorants de détecter les passages qu'ils ont copiés dans leur thèse avant que le jury s'en aperçoive. Pour les éditeurs de journaux scientifiques, il y a aujourd'hui l'initiative Cross-Check, qui réunit une centaine d'éditeurs. Cross-Check est une base de données qui permet, si un article soumis pour publication reproduit en partie un article déjà publié, de cibler cet article et de l'écarter de la publication, celui qui a copié. Mais le plagiat n'est pas ce qu'il y a de plus grave, car il ne fait pas de mal à la science. La falsification des données fait beaucoup de mal à la science. Elle lance les autres chercheurs sur de fausses pistes, elle fait perdre du temps, elle fait perdre de l'argent, elle nuit à l'image de la science. Et la falsification est souvent difficile à détecter. Il y a même des exemples de chercheurs qui ont fabriqué leurs données et on ne s'en est aperçu qu'après leur mort. Ils avaient vécu la vie de mandarins vénérés. 6. On a cherché à comprendre pourquoi certains chercheurs trichent. Évidemment, le mensonge, la tricherie sont des jeux humains universels. Mais la malhonnêteté d'un scientifique étonne, déconcerte, plus que la malhonnêteté d'un politique, d'un commerçant ou d'un banquier, justement parce qu'elle est plus rare. Elle est plus rare parce que sa profession met le scientifique au service du vrai, ce qui en principe exclut la malhonnêteté. Pour expliquer que certains scientifiques trichent, on a dit que le grand nombre des chercheurs aujourd'hui, les pressions exercées sur eux pour qu'ils obtiennent des résultats, l'ambiance compétitive dans laquelle ils travaillent, la course au financement, la mondialisation de la publication scientifique dominée par la langue anglaise, font que les chercheurs, et en particulier les plus jeunes, sont poussés à optimiser leurs résultats pour se faire remarquer. Ces explications qu'on a données sont douteuses. Les enquêtes faites auprès des chercheurs, on a posé à des chercheurs les questions « Vous est-il arrivé de frauder vous-même » ou « Vous est-il arrivé de surprendre des collègues en train de frauder ?» Les réponses sont oui plus souvent à la seconde question qu'à la première. Ces enquêtes faites auprès des chercheurs semblent montrer, entre autres, que ce ne sont pas les plus jeunes qui trichent le plus, que ce sont plutôt les milieux de carrière, 45 ans, à moins que la précarité des jeunes fasse qu'ils n'osent pas dire qu'ils trichent. Mais ils le disent sous le couvert de l'anonymat. À tout prendre, mieux vaudrait prévenir la fraude plutôt que la détecter et la punir. 7. Mon dernier point. Les remèdes. On a dit, pour prévenir la fraude, il faudrait améliorer la formation des chercheurs, peut-être en leur ajoutant des cours d'éthique, une mesure qui n'a pas soulevé d'enthousiasme et qui est probablement peu efficace. La grande idée actuellement, celle qu'on projette vers l'avenir, est de lier l'exigence éthique au financement de la recherche. Un moyen puissant, mais de maniement délicat. J'explique. Quand vous soumettrez un projet de recherche pour une demande de financement, demain, non seulement votre projet sera jugé sur son intérêt scientifique et sa qualité méthodologique, mais vous devrez prouver que votre institution de recherche a une charte d'éthique et qu'elle enseigne les bonnes pratiques. Et puis, vous devrez prendre l'engagement que si vous êtes convaincu de fraude, vous devrez rembourser l'argent qu'on vous a donné. Rembourser les crédits de recherche. Cette clause, signale et accentue le pouvoir du financeur sur le chercheur. Cette clause se comprend dans la perspective d'un financeur public, l'État, qui juge inacceptable de gaspiller l'argent des contribuables à financer de la recherche sale, mal faite. On veut une recherche propre, une recherche dont on puisse être fier. Mais on connaît maints exemples de financeurs privés qui ont cherché à orienter dans un sens qui leur serait profitable les résultats de recherche qu'ils financent. J'ai mentionné l'industrie du tabac tout à l'heure. On peut mentionner, c'est bien connu chez les médecins, l'industrie pharmaceutique. On peut mentionner aussi l'industrie chimique, etc. La réponse des institutions de recherche est qu'elles invitent les chercheurs à déclarer leur conflit d'intérêts. Réponse adaptée mais faible et qui montre la difficulté de concilier les deux valeurs fondamentales pour la science que sont l'intégrité de la recherche et la liberté de la recherche. Je vous remercie.